juste avant de passer un petit moment à réfléchir concrètement sur cette question du témoignage, une stratégie de témoignage en Église, je voulais revenir à la notion d'espérance qu'on a traitée tout à l'heure et juste partager un constat. Avec notre Église, on lance une série dans le livre des Actes qui a commencé il y a juste quelques semaines. Et en étudiant les Actes, cette fois-ci, je suis quand même frappé par l'accent qui revient sur la notion de Christ ressuscité. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on dirait presque que le message de la croix est négligé. Il y a même des commentaires qui suggèrent que Luc a un peu négligé cet aspect de l'évangile dans le livre des Actes, tellement il part de résurrection, de résurrection, de résurrection. Bon, il y en a qui vont dire, bon, Luc fait juste l'équilibre entre son évangile, il y a beaucoup d'accent sur la croix, et puis les Actes où c'est beaucoup plus sur la notion du Christ ressuscité. Mais ce qui est quand même intéressant, ce qui dérange beaucoup ceux qui écoutent la prédication de l'évangile, que ce soit dans un contexte plus juif ou dans un contexte plus non-juif, c'est la notion de Christ ressuscité. Et ça m'interpelle parce que je pense que même aujourd'hui, on peut facilement parler avec nos amis de questions de valeur. Il y a beaucoup de choses dans l'enseignement de Jésus qui passent bien aujourd'hui. Je peux raconter des paraboles, je peux parler de son amour pour les pauvres. Il y a énormément de sujets où je sais que là, ça passe crème en fait. Ça va résonner facilement dans le cœur de mon entourage et peut-être ça va même susciter une certaine curiosité. Mais quand je commence à parler d'un homme ressuscité, alors là, c'est pas du tout pareil. Et je pense qu'on le sent tous. Hein. Je ne vais pas vous demander de vous afficher, mais je vous pose une question comme ça, juste de réflexion. C'était quand la dernière fois que vous avez parlé avec un non-chrétien de la résurrection de Jésus-Christ? Peut-être que pour certains, c'était récent. Voilà. Et j'avoue que pendant longtemps dans mon propre témoignage, alors que je pouvais aller même jusqu'à la croix et mettre l'accent sur notre besoin de pardon et le sacrifice de Jésus-Christ, j'étais beaucoup plus à l'aise pour parler de ce sujet-là que de parler de la résurrection. Et j'avoue que même si j'arrivais à parler de la résurrection de Jésus-Christ, j'étais un peu flou dans ma tête pour parler sur qu'est-ce que ça change pour moi personnellement. Et cette espérance d'un nouveau corps et d'une nouvelle terre, et pourquoi est-ce que c'est important pour nous? J'aimerais juste suggérer que même si ça dérange, ça choque, peut-être ça peut, dans certaines situations, fermer des portes pour aller plus loin, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « mais vous êtes fou quoi, comment est-ce que vous pouvez croire un truc pareil ?» J'aimerais suggérer que ce message de Christ ressuscité, c'est le message dont a besoin nos contemporains. On a besoin d'en parler d'un Christ ressuscité et de tout ce que ça implique, avec pas simplement un nouveau corps pour lui, mais des nouveaux corps pour nous et un nouveau monde qui se prépare. Il y a un manque d'espoir, on peut dire, chez nos contemporains aujourd'hui, qui se manifeste de mille manières que vous connaissez très bien. Je ne vais pas donner des statistiques. Mais il suffit de discuter au-delà de quelques minutes avec ceux qui nous entourent et on sent très rapidement qu'il y a un sentiment de désespoir, beaucoup d'incertitude, d'inquiétude par rapport à l'avenir. Et la question qui se pose, c'est ben, où est-ce qu'on trouve de l'espoir? Où est-ce qu'on trouve quelque chose de solide? Et si nous, les chrétiens, on a tendance à mettre l'accent sur la notion d'espérance plutôt que d'espoir, bon, j'ai appris ça il y a un certain nombre d'années parce qu'en anglais, c'est le même mot, hope, hope. Mais vous faites une distinction entre ces deux, si j'ai bien compris. J'ai l'impression qu'en français, espoir, bon, par exemple, pour aujourd'hui, j'espérais qu'il fasse beau. On ait du soleil. Ah, c'est le cas. Oups, j'ai failli faire tomber ça. Ah, mais ce n'était pas sûr, on est bien d'accord, hein. Et il y a beaucoup de choses que je peux espérer. Mon fils Wesley n'est pas encore baptisé. J'espère vivre son baptême un jour. Il n'y a pas de garantie. Hein. Je prie pour lui. On annonce la parole. On cherche à vivre quelque chose de beau en famille autour de l'évangile. Mais ça reste un espoir. Par contre, l'espérance, d'un point de vue biblique, c'est quelque chose de sûr et certain, n'est-ce pas? C'est des certitudes basées sur des promesses. Et la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, où Dieu tient sa promesse, quand Christ sort du tombeau vivant, eh ben, c'est quelque chose qui nous rassure du fait que s'il tient cette promesse-là, il va tenir toutes les autres promesses aussi. Et cette certitude qu'on a face à un avenir qui est plutôt sombre, aujourd'hui, on parle de l'Ukraine, on parle de Gaza, on voit ce qui se passe dans mon pays, aux États-Unis, et ça provoque tout un tas d'émotions négatives, de peur, franchement, d'incertitude. Mais je reviens à cette notion d'espérance, de cette certitude, mon Dieu reste sur son trône, Christ est ressuscité. Et cet événement-là, ça a ouvert la porte à une nouvelle réalité qui prend de plus en plus de place dans ce monde qui sera un jour complètement renouvelé, la terre elle-même. Je pense que le mot en français, c'est soupir. En fait, il y a des soupirs. Est-ce qu'on peut parler de ça en Romains 8 ? Attends, avec des soupirs, comme en fait, dans les douleurs de l'accouchement, sa rédemption, cette terre sera renouvelée complètement. Et nos contemporains ont besoin d'entendre parler de cette histoire-là. Donc, qu'on n'ait pas peur de partager. J'aimerais suggérer qu'au-delà de nos œuvres de bienfaisance, de notre gentillesse, on en a parlé tout à l'heure, ce que nous on a apporté, qui va bien au-delà de ça, c'est ce message d'espérance, de certitude face à un avenir hyper incertain pour beaucoup. Donc, que le Seigneur nous équipe pour annoncer ce message à nos contemporains qui ont profondément besoin. Je vais prier. Et puis après, quelques outils pratiques. Merci Seigneur encore pour ce beau temps. Ça fait tellement plaisir, même si c'est dur un petit peu d'être à l'intérieur quand on voit ces montagnes et ce beau soleil. Je te remercie quand même pour ce privilège ensemble de nous mettre à l'écoute de ta parole. Et je prie que ce soit le cas. Je suis conscient du fait que ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas vraiment là pour écouter Nicolas. En fait, on est assoiffé de ta parole. Nous voulons ta pensée, Seigneur, ta vérité. Il n'y a que cette vérité-là qui peut transformer des vies. Et que ce soit le cas, Seigneur, que ta vérité ait un impact dans nos vies, qu'on soit changé par ce message d'espérance et que tu nous donnes toutes les ressources pour être des témoins qui portent du bon fruit. Au nom de Jésus, amen. Juste un dernier petit partage rapide. Je ne sais pas si vous avez vu que récemment, il y a eu un documentaire concernant les évangéliques sur France 2. Et vous l'avez... Ouais, je comprends bien. Moi-même, j'avais pas trop envie, mais en tant que pasteur, je savais que certains membres de notre église allaient le voir. En tant que voisin, je savais qu'un certain nombre de mes voisins allaient voir ce documentaire. Je voulais avoir au moins quelques éléments de base pour pouvoir en discuter. Horrible. C'était dur à regarder. Et il y a tellement de choses que je peux dire, mais là où je voulais juste mettre un petit accent, c'est sur quelque chose de faux qui peut être parfois transmis par justement le monde évangélique. Et c'est un message de ce qu'on appelle parfois une eschatologie surréalisée. Ça, c'est un gros mot technique. Bon, pas gros mot, mais grand mot peut-être. Une expression très technique. Mais la notion d'eschatologie, ça vise l'avenir. En fait, la réalisation des promesses de Dieu. Surréalisée, c'est l'idée que c'est un peu trop tôt. Et parfois, certains témoignages, y compris certaines choses qu'on a vues dans ces baptêmes, je ne sais pas si tu te souvenais de ça, il y avait des centaines de personnes qui se faisaient baptiser comme assembly line, chaîne de... Voilà, exact. Et certains des témoignages, c'est « ma vie est complètement changée. Je sors de l'eau, je suis encore mouillé et je suis complètement transformé. » Et pour nous qui sommes là et on a un certain nombre d'expériences avec le Seigneur, on peut dire que c'est vrai et pas tout à fait vrai. Est-ce que vous savez de quoi je parle? on peut donner l'impression que ouais, je souffrais dans le passé et maintenant c'est tout bon. Hier, c'était tout sombre et difficile et maintenant, tout va bien. Et en fait, je suis désolé, mais ce n'est pas biblique cette pensée. Au contraire, suivre ce Messie crucifié, c'est porter sa croix ici-bas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais du bonheur pour les chrétiens? Ben, non, je ne suis pas en train de dire ça. Qu'il n'y a pas, jamais du plaisir, jamais de la victoire dans nos combats contre le péché. Oui, on vit tout ça, mais c'est quand même intéressant de se souvenir du fait qu'en Christ décrit son royaume, il se sert d'images plutôt agricoles, des graines qui sont plantées dans la terre. Et ça prend du temps pour que ça pousse et que ça porte du fruit. Et on passe par des saisons, de belles saisons avec du soleil et des tempêtes et tout le reste. Quoi. On est bien d'accord. Et voilà pourquoi, encore une fois, je pense que ce message d'espérance, il faut que nous soyons au clair dans notre témoignage, que ce qui nous motive aujourd'hui, ce n'est pas le fait que maintenant tout va bien, parce que je suis un chrétien. Non, justement, vous par exemple, je viens d'apprendre que, encore une fois, les frères et sœurs de l'ECE sont dans le deuil cette semaine. Et ça touche mon cœur. Et c'est une question intéressante. Comment est-ce que nous vivons cela? Qu'est-ce que ça change dans notre manière de vivre, notre tristesse face au départ de quelqu'un qu'on aime, vu qu'on a cette espérance? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on reste dans la célébration et dans la joie, comme si tout va bien? Non, la mort n'est pas normale. Quelque part, à l'intérieur, ça nous... On sent cette frustration, on gémit, est-ce que je peux dire comme ça? Il y a ces soupirs, comme cette terre, en attendant la libération. Mais c'est quand même intéressant, on a un monde autour de nous qui nous regarde pour voir comment eux, ils font le deuil. Et quel impact a notre espérance là-dedans? Donc je prie pour vous en découvrant encore une fois que l'ECE a perdu quelqu'un de précieux. Je suis sûr, mes frères et sœurs, que le Seigneur, il est en train de révéler ces belles vérités à travers votre manière de vivre ce deuil en Église. Et je m'en réjouis. Quelques outils rapidement, surtout pour que ceux qui ne sont pas des évangélistes professionnels. Et on est nombreux. Déjà, notre texte, on reste quand même avec cette idée de notre bienheureuse espérance en tête. On va passer... direct à quelques outils. Peut-être avant de présenter cet outil, j'aimerais qu'on imagine ensemble rapidement un parcours type pour une personne, un non-chrétien, entre son premier contact avec l'Église, avec peut-être un membre de l'Église, par exemple, le message de l'Évangile, ou peut-être pas, juste quelqu'un qui est chrétien, et ce que j'allais dire, du premier contact au diaconat. Et si je parle de diaconat, je ne sais pas si vous avez des diacres à l'ECE, mais c'est un peu symbole d'un chrétien qui a une certaine maturité, une certaine expérience dans la foi, qui est au service engagé dans l'Église. Bon, voilà. Donc entre ces deux moments, premier contact et on peut imaginer diaconat, il peut y avoir tout un certain nombre d'étapes. Et j'aimerais vous inviter à m'aider, je vais me déplacer un petit peu. Quelles sont les différentes choses qui peuvent se passer entre ce premier contact et le moment où on a cette personne qui est baptisée, membre d'une église, dans une voie de formation continue, etc. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Bon, à un moment donné, une conversion, tout à fait. Si on cherchait à être un peu plus précis, entre un premier contact et le moment où quelqu'un dit « oui, je veux que Jésus soit mon sauveur », quelles sont quelques différentes choses qui peuvent se passer entre ces deux moments-là? Peut-être une amitié avec un chrétien, tout à fait, ok. On est tous d'accord sur le fait qu'il ne suffit pas juste d'être ami avec des chrétiens, mais ça crée un contexte pour de belles possibilités, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc un contexte relationnel, propice peut-être. Quoi d'autre? Tout à fait, ouais, on est bien d'accord. Une Bible, ça aide. Tout à fait. Parcours découverte. Tu veux juste dire un autre mot par rapport à ça, une autre idée? Exact. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que, en fait, bon, je ne veux pas du tout critiquer différentes formes d'évangélisation, mais juste donner la Bible à quelqu'un, et je sais que ce n'est pas ce que Sandra avait en tête, Sandra a énormément de contacts avec les non-chrétiens, elle sait que ce n'est pas hyper efficace ça, mais si tu, en fait, prendre une Bible et situer cette Bible dans le contexte d'un processus, un parcours, on est tous d'accord, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Un accompagnement, tout à fait. Est-ce qu'on voit? Oui.
Il y a aussi le fait d'avoir d'aimer.
Oui. Tout à fait. Et ça rejoint un peu cette notion d'un contexte d'amitié avec peut-être différentes preuves d'amour, surtout dans des moments peut-être un peu difficiles où nous, on était présents pour soutenir, etc. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle d'autres éléments? Et on peut aller au-delà peut-être de la conversion aussi, si on veut bien. Le discipulat, tout à fait. Ouais, et en fait, tout ce que j'entends de l'ECE, c'est quelque chose que cette Église prend vraiment au sérieux depuis des années, un accompagnement que justement, arriver jusqu'au baptême, ce n'est pas suffisant, mais on veut accompagner des personnes jusqu'à la maturité en Christ, effectivement. OK. Bon, je ne sais pas s'il y a une dernière pensée par rapport à ça, je vais juste lire rapidement un petit parcours que j'ai et qui ça reprend un certain nombre de ces éléments-là. Donc, peut-être un chrétien va parler de son église, de sa foi, de la Bible à un moment donné dans une discussion, dans la rue par exemple, devant la maison. Après, on peut imaginer à un moment donné qu'il y ait quand même une présentation très simple de l'évangile. Peut-être une invitation à lire la Bible ensemble, à deux ou trois, ou peut-être dans le contexte d'un parcours découverte. Peut-être une participation à des activités informelles avec d'autres membres de l'Église. Il y a Christophe qui vient de me parler d'un Soccer Five que plusieurs d'entre vous avez mis en place. Et c'est un beau contexte pour inviter à la fois des joueurs chrétiens et puis des amis non chrétiens qui vont juste passer du temps ensemble. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être une participation justement à un groupe découverte, un premier culte peut-être avec un débriefing. Bon, peut-être préparation avant et puis débriefing après, c'est bénéfique. Peut-être ça peut devenir une participation un peu plus régulière au culte. On peut imaginer peut-être quelqu'un qui vient avec nous pendant un week-end d'église ou peut-être participer à un camp chrétien, quelque chose d'un peu plus poussé, sur une durée un peu plus longue. On peut espérer qu'à un moment donné, on arrive à un processus de préparation au baptême, suite à une prise de décision. Quelqu'un a parlé de conversion, effectivement. Et puis, je pense que pour vous, c'est comme pour nous. Après un baptême, assez rapidement, on va chercher à faire le nécessaire pour intégrer cette personne comme membre de l'église locale. Et après, il y a toute une formation de disciples qui va suivre. Et des invitations pour participer au service, contribuer, exercer ses dons, peut-être discerner ses dons, les mettre en pratique, etc. Ce qui est quand même intéressant, c'est que tout au long de ce processus, ben, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais peut-être on peut chercher à se situer à chaque étape dans ce processus. Et peut-être il y a certaines étapes où on sent que ben, je serai plus à l'aise avec ça et moins à l'aise avec ça. Et c'est là où cette notion, et ça vient vraiment de vos anciens, quand on m'a contacté, c'était ça l'idée, c'est une stratégie de témoignage en église. Je trouve ça super intéressant. Parce qu'on a quand même toute une diversité de dons, de personnalités, de niveaux de disponibilité dans une église. Et c'est intéressant face à un parcours un peu type comme ça. Ça peut varier hein, selon la personne, d'imaginer une diversité de personnes qui participeraient, qui contribueraient de différentes manières. Quand ça a lieu en lien avec une vie, avec la vie d'une église locale. Je pense qu'il y aura certaines personnes qui sont beaucoup plus douées pour le premier contact. D'autres, c'est un peu plus difficile d'aller chercher, commencer une discussion avec quelqu'un que je ne connais pas très bien. Mais il y a certains qui sont très doués là-dedans, mais peut-être qui ont un peu plus du mal pour savoir qu'est-ce que je fais maintenant et qui seraient contents de pouvoir transmettre à quelqu'un d'autre la prochaine étape. Il y a par exemple une fille chinoise qui habite chez nous, Laure, qui est étudiant en master à l'école de management et elle est super pour les premiers contacts. Puis, et très souvent pour elle, c'est des filles. Et sa prochaine étape, c'est de contacter ma femme Annie pour dire, Annie, est-ce que tu peux rencontrer une femme une de mes camarades de classe. Et puis, une bonne partie des filles que ma femme Annie suit en ce moment, c'est grâce à Laure. Donc, c'est un beau partenariat. Il y a tout le côté accueil, hospitalité. C'est un outil extraordinaire d'évangélisation. Juste accueillir des personnes chez soi. Et il y en a qui sont très à l'aise pour faire ça, mais peut-être pas forcément pour faire une étude biblique. Parfois, c'est quelqu'un qui se dit, tiens, moi, j'ouvre ma maison, mais je serais bien content si toi, tu viendrais pour animer le temps. Il y a certains qui sont très forts dans la coordination d'un événement, comme aujourd'hui, il y avait tout un tas d'éléments à gérer pour que cette journée fraternelle ait lieu. Ça, c'est pas mon don, ça. Heureusement, il y en a qui sont vraiment doués pour cet aspect-là. Pareil, tout le travail d'animer un temps de discussion entre 3, 4, 6, 12 personnes. Il y a certaines compétences que tout le monde n'a pas forcément. Mais qui sont les personnes de notre Église qui ont ces compétences? Et peut-être qu'on pourrait inviter et dire, tiens, j'ai un groupe de non-chrétiens, d'amis, dans mon quartier, qui serait peut-être ouvert à un groupe découverte, un parcours. Moi, je ne peux pas le faire, je ne me sens pas le faire. Est-ce que tu serais d'accord pour venir animer ce temps? Bon, parfois, rien que le fait d'être d'accord pour garder les enfants de quelqu'un, tu vois. Il y en a qui se sentent super à l'aise, qui même adorent pouvoir prendre les enfants des autres chez eux. Il y a d'autres qui ont horreur de ça. Donc, différents dons. Le fait de préparer un repas. Tout le côté, parfois, accompagnement pastoral. Parfois, dans le processus d'accompagner quelqu'un vers la foi, on découvre... parfois des dossiers très difficiles, on sent, moi je ne suis pas prêt, je ne sais pas quoi faire face à ça, je ne suis pas équipé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon réseau, peut-être quelqu'un dans mon église locale qui aurait un peu, entre guillemets, la bouteille pour pouvoir intervenir, accompagner cette personne, peut-être l'orienter mieux que moi. En fait, si je vous parle de tout ça, c'est juste pour nous encourager à réfléchir à cette réalité d'une église avec tout un tas de dons qui viennent du Seigneur, et que ces dons ne sont pas juste utiles pour faire fonctionner l'Église, le culte, les groupes de quartier, groupes de jeunes, etc. C'est utile pour ça aussi, mais ça ne s'arrête pas là. C'est quand même intéressant de se dire, tiens, Seigneur, tu nous as donné tout un tas de dons qui nous équipent en tant qu'Église pour vivre notre témoignage ensemble, et pas tout seul. Ça, je trouve juste merveilleux. Et j'imagine que vous êtes déjà nombreux soit avoir vécu ça dans le passé, ou peut-être dans certains cas, vivre ça actuellement. Et peut-être si vous n'êtes pas déjà impliqué dans presque un petit réseau de témoins avec différents dons au sein de l'Église, ça peut être un sujet intéressant de prière. Dire, tiens, déjà, Seigneur, aide-moi à savoir où est-ce que je me situe un peu dans ce parcours, dans ces différentes possibilités. Quelles sont mes capacités? Quel niveau de disponibilité? Et de qui aurais-je besoin autour de moi pour pouvoir bien accompagner quelqu'un? Est-ce que tu peux m'orienter? Parce que j'aimerais bien faire partie d'une dynamique de témoignage comme ça avec d'autres dans l'Église. Juste une autre pensée, c'est que peu importe tes dons et tes compétences, quelque chose, je pense que les anciens auraient envie, et je pense que c'est déjà bien communiqué dans cette église, et on a de très bons modèles de ça, mais il y a quand même l'idée de formation continue, où, alors que, ok, je suis là où je suis actuellement avec mes dons, mes connaissances, mes compétences, mais tout ce qui fait partie du royaume de Dieu pousse. Il y a une dynamique de croissance. Et donc, ça peut être aussi une question intéressante. On regarde là où je suis aujourd'hui, peut-être je ne me sens pas prêt à, par exemple, on va parler de la lecture de la Bible en 1:1. Je ne suis pas prêt pour ça aujourd'hui, mais peut-être l'année prochaine, oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse entre maintenant et ce moment-là pour que je sois équipé pour vivre cette expérience, pour aller plus loin de ce que je fais aujourd'hui? Et quelles sont les ressources qui sont mises en place, que ce soit par les anciens ou des ressources dans notre réseau d'église qui m'aideraient à prendre une prochaine étape pour pouvoir contribuer quelque chose de valeur à ce témoignage en église? Un dernier point, et puis on termine avec deux outils. C'est avec tristesse que je vous fais une confession. Et ma confession, c'est que j'ai négligé pendant des années la prière pour les non-chrétiens. Je ne suis pas en train de dire que je ne priais pas. Mais aujourd'hui, et depuis un certain temps, j'apprends à prier, à prier pour les non-chrétiens, à prier pour tout un tas d'autres sujets aussi, mais vraiment à crier au Seigneur, sachant que je ne peux rien changer dans ce monde de ténèbres. Je suis impuissant, il n'y a rien qui bouge sans la présence et la puissance de mon Dieu. Donc Seigneur, si tu ne touches pas le cœur de mon voisin, ça ne va pas changer. J'ai toujours compris ça intellectuellement, en fait. Mais cette compréhension-là, je ne sais pas pourquoi, ne s'est pas traduit dans une vraie vie d'intercession, intercéder pour ceux qui ne connaissent pas Christ autour de moi, avec une stratégie, peut-être avec une liste, peut-être avec des sujets de prière précis, et ceci jour après jour après jour, pendant des semaines, peut-être pendant des mois, en sachant que dans ce monde, et c'est un mystère pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais notre Dieu souverain, il fait très peu de choses, il y en a qui disent qu'il ne fait rien, sans passer par les prières de son peuple. Et Jésus nous donne dans son enseignement l'impression que si on n'a pas, c'est parce qu'on ne demande pas. Comme s'il y a des choses qu'on peut avoir, mais il faut demander. Donc c'est intéressant aussi de se dire, tiens Seigneur, même si aujourd'hui je ne suis pas prêt à aller dans la rue, annoncer la bonne nouvelle, même si je ne suis pas hyper équipé pour parler de la résurrection, l'espérance et tout ça, oh c'est un peu flou dans ma tête, même la croix, mais je peux prier. Est-ce qu'il y a 3 personnes dans mon entourage pour qui je peux commencer à prier tous les jours? Demandez d'intervenir et préparez-vous les amis. Préparez-vous. Quand on commence à prier comme ça pour les non-chrétiens, on a un Dieu vivant qui fait bouger les choses. Ok, juste 2 outils rapides. Est-ce que vous avez déjà vu ces symboles-là? Ouais, il y en a. Est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà ces 4 symboles, peut-être, les 4? Non, pas vraiment. En fait... c'est simple, c'est des symboles que je reconnais, mais c'était cet été que j'ai découvert vraiment à quel point ce petit outil peut être pratique. En fait, il y a mon fils Mika qui a fait un stage avec l'association d'évangélisation de Billy Graham en Caroline du Sud. Et c'était pendant un événement qui a eu lieu à Berlin. Il y avait un grand rassemblement avec le petit-fils de Billy Graham, William Graham, qu'il était dans l'ascenseur avec le gars qui a développé ce système des 4 symboles. Et c'était horrible parce que le gars dit, ah oui, est-ce que tu connais The Four, on appelle en anglais, The Four. Et Mika ne connaissait pas du tout. Alors qu'apparemment, c'est quelque chose d'hyper connu. Donc le gars, il sort un petit bracelet. Peut-être vous avez vu ces petits bracelets avec les 4 symboles. Peut-être il y en a qui les ont. Et il explique l'évangile dans quelques minutes dans l'ascenseur. Bon, ils sont sortis à un moment donné, mais très rapidement, voilà. Et Mika était juste, mais waouh, c'était tellement simple, c'était tellement court, ça donnait tellement envie. Et donc le gars lui a passé un bracelet, puis le soir même, il était à McDo avec un groupe d'autres stagiaires, la fin d'une grande journée, et ils étaient en train de discuter à une table, ils parlaient du Seigneur, ils étaient très animés. Il y avait une fille qui bossait là, dans le McDo, qui arrivait au bout de son créneau horaire, elle est venue s'asseoir à côté d'eux pour écouter. Et à un moment donné, Mika lui montre son bracelet, il dit, est-ce que tu reconnais ces symboles-là? Il dit, non. Il commence à expliquer l'évangile, juste en se servant de ces quelques symboles. Et ils ont passé presque 2 heures à McDo à discuter de l'évangile sur cette base-là. Donc, quand j'entends une histoire comme ça, je dis, tiens, ça m'intéresse. J'aime les choses simples, pas très compliquées, où il ne faut pas avoir 3 ans de formation en théologie pour pouvoir le faire. Donc, j'aimerais juste vous montrer, en fait, il y a des outils très simples sur Internet qui présentent les quatre points très simples. Et à chaque fois, il y a juste une petite vidéo. Là, c'est la première vidéo. Et en fait, le premier symbole, le cœur, c'est juste tout simplement le message Dieu même. Il y a 2 textes, deux versets bibliques, 1 Jean 4,16, le psaume 16,11. Cette vidéo dure, je pense, une petite minute. Donc, c'est très, très court. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la vidéo n'est pas censée tout expliquer. C'est juste un petit point d'accroche pour nous aider à démarrer la discussion. Et on n'a même pas besoin justement de se servir de la vidéo. On peut voir comment le gars présente. Peut-être on aimera, peut-être on n'aimera pas. Mais on va comprendre la notion de pouvoir présenter ce point que Dieu nous aime en très peu de temps. Et après, on trouve notre propre manière de formuler cette idée-là. Et après, ça passe à un deuxième point. Je vis séparé de Dieu. Ça, c'est le symbole de... Comment on dit ça en français? Division. La division? Divisé, voilà. Donc, il y a une division, une séparation entre moi et Dieu. On sait très bien, c'est à cause du péché. Romains 3, 23, Ésaïe 59, 2. Encore une fois, une courte vidéo. On peut s'approprier, modifier à notre sauce. Et puis après, ça passe à un troisième point. Avec la croix, Jésus a tout donné pour moi. Donc, explication très simple du sacrifice de Jésus-Christ. Les versets sont un peu trop bas, je suis désolé. Donc, je ne sais pas ce que... Voilà, vous allez voir sur le site. Et puis, un quatrième point, un appel à la décision. Je décide de suivre Jésus, Jean 1, 12 et Apocalypse 3, 20. C'est court, c'est rapide, c'est juste quelques symboles, c'est imagé. Et je trouve ça intéressant, en fait, comme petit outil, par exemple, avec ma voisine, avec qui j'ai discuté, je me suis dit, bon, la prochaine fois qu'on se croise, j'aimerais bien venir avec un petit bracelet. Dire, tiens, tu connais ça? Est-ce que je peux t'expliquer rapidement ce que nous, on croit? En quelques phrases, juste petite présentation, et peut-être c'est tout, ce jour-là. Mais c'est une petite semence, n'est-ce pas? Un point de départ, et on ne sait jamais où ça peut aller. Donc voilà, je pense que j'ai un QR code là qui vous donne accès à ces vidéos pour ceux qui s'intéressent. Comme vous avez déjà pris pour ceux qui ont pris le diapo, vous avez déjà ça, mais n'hésitez pas à prendre ça. Je trouve ça vraiment simple. Et ce que j'apprécie aussi, je pense que c'est une petite présentation qui est plutôt accessible à nous tous avec un petit peu de travail. C'est le genre de choses qu'avec un coloc ou son mari ou... Voilà, un autre membre de l'Église, on pourrait faire un peu l'expérience quelquefois pour voir, pour travailler un peu notre capacité d'expliquer brièvement le message de l'Évangile. Juste un dernier mot avant de présenter un deuxième outil. Quelque chose qui m'a interpellé cet été. Pendant que j'ai visité, il y avait un bâtiment avec un musée tout autour du ministère de Billy Graham. L'évangéliste, et en faisant le tour, on a regardé plusieurs vidéos, ou juste des petits clips vidéo qui présentaient des moments où ils présentaient l'évangile dans différents contextes. Et ce qui m'a frappé, c'est que systématiquement, il arrivait au quatrième point là, qu'on vient de voir, un appel à la décision. Et je sais que on connaît peut-être tous des contextes, certains mouvements d'église ou unions d'église, ou je ne sais pas si ça existe en France, en tout cas aux États-Unis, il y a certains contextes où chaque prédication, on va appeler des gens à lever la main ou se lever, à venir, et ça peut nous déranger un petit peu, parce que surtout avec la musique, l'ambiance, et ça, on peut sentir qu'il y a un côté peut-être un peu manipulateur, qu'on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais j'ai presque peur qu'en France, et ce n'est pas que les Français, moi-même je vis cela, on peut presque avoir peur d'appeler des personnes à prendre des décisions, d'inviter des personnes à décider. Et ma mère, qui est psychothérapeute, elle me dit, Nico, parfois des personnes ont juste besoin d'être autorisées, de dire, tiens, tu peux. Est-ce que tu savais que toi aussi, tu peux choisir Jésus-Christ? Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ça aujourd'hui? Moi, je réalise que, alors que j'ai beaucoup parlé du Seigneur avec des amis français, de tout un tas d'autres nations aussi, c'est avec un peu de regret que, en me souvenant de tous ces moments, je suis pas souvent arrivé à ce dernier point. Et je dis pas que tout ça, on doit faire dans une seule discussion. On est bien d'accord, hein? Mais qu'à un moment donné, j'invite la personne à prendre une décision. Que penses-tu? Qu'est-ce qui t'empêcherait? Tu vois, je trouve ça intéressant. Ça m'interpelle. J'ai envie d'être un peu plus audacieux dans ce domaine, cette invitation, presque cette autorisation. Tu savais que c'est pour toi aussi. Bon, juste un dernier outil. J'ai perdu mon temps. Oui, dis-moi à quelle heure. C'est bon là? Ok, on a un petit peu encore. Ok, très bien. Je vais bien respecter l'heure là. Donc, un dernier petit outil quelqu'un l'a peut-être évoqué tout à l'heure. Moi, je trouve que, justement, pouvoir passer d'une petite présentation courte que vous utilisez les quatre ou autre chose, à vous de choisir. Mais je trouve qu'une prochaine étape intéressante, après peut-être une courte présentation initiale qui donne un peu les grandes lignes de l'Évangile, ce serait d'inviter quelqu'un à lire la Bible à deux. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous allez faire comme notre locataire en bas, Laure, qui ne sent pas très à l'aise pour faire ça, mais il demande à une sœur en Christ de l'accompagner avec son ami. Et bon, là, je pense que depuis 2 ans, ça fait facilement 4, sinon 5 filles avec qui Laure a lu la Bible avec Annie en parallèle. Et dans mon ministère, j'ai fait 10 ans au feu. Et maintenant, ça fait 8 ans. Ça fait 7 ans. On entre dans notre 8e année. Mais dans mon ministère pastoral, la plupart de personnes que j'ai vues venir au Seigneur, aller jusqu'à la conversion, baptême et devenir membre d'une église, à un moment donné, ils sont passés par là. À un moment donné, quelqu'un a proposé une lecture de la Bible dans un contexte. Parce que tôt ou tard, il faut que la parole de Christ, cette parole de Dieu soit entendue. Et comme notre frère il a suggéré, je pense que le fait que ce soit une forme de parcours, un processus dans le temps, pour qu'on ait le temps pour digérer, pour réfléchir, peut-être pour ne pas être d'accord, être dérangé. À plusieurs reprises, j'ai eu des personnes qui ont complètement abandonné et quelques mois plus tard qui sont revenues pour recommencer. Donc il ne faut pas qu'on se décourage, mais qu'on fasse confiance à la parole de Dieu pour faire son travail, surtout en partenariat avec la prière. Que c'est quand même l'épée de l'esprit, percée. Et c'est ce qu'on cherche, on veut que ça pénètre. Et donc, ce petit bouquin ici, est-ce qu'il y en a qui ont déjà peut-être soit lu, soit vu ce bouquin de David Helm? Je pense que ça a été traduit récemment, c'est un tout petit bouquin de 50 pages. Ça, j'aime bien aussi, les petits bouquins, qui sont faciles à lire. Et franchement, c'est que 20, peut-être 30 pages qui sont vraiment la théorie, puis tout le reste, c'est des outils. Donc, c'est très rapide. Lire la Bible à deux, accompagner nos amis dans leur découverte de la Bible, c'est très simple. C'est juste un outil pour nous apprendre. Si moi, je voulais proposer à ma voisine ou mon voisin de commencer la lecture de la Bible avec moi, en fait, ça me donne un processus très, très simple. Ça explique un peu la démarche, la philosophie derrière. Et puis, il y a différents plans de lecture. Par exemple, si je voulais faire l'évangile de Marc en 8 fois, Il y a une sélection de textes qu'on pourrait faire. Si je voulais faire ça en 5 fois, on pourrait aussi, avec des questions à poser, etc., des canevas. Et c'est hyper utile pour quelqu'un qui n'a jamais fait cette expérience-là. Ça donne tout un tas d'idées. On découvre le fait que, ben, franchement, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qui est vraiment chouette avec la lecture de la Bible, c'est que c'est la Bible qui porte le poids de l'enseignement. Tout le contenu vient du texte. Après, nous, on discute. Et on voit, quand on lit, il y a quand même un petit peu de préparation pour que nous-mêmes, on se familiarise avec le texte et on anticipe un petit peu, presque un arc narratif, on dit ça parfois pour la discussion. Je vais commencer où? Après, on va faire quoi? Où est-ce que j'aimerais arriver à la fin de la discussion? Il y a tout un côté un peu organique aussi, parce que la personne aura ses questions à poser, ses idées, etc. Donc, il y a de la souplesse. Mais je suis émerveillé par tout ce que le Seigneur peut dire, juste en lisant la parole et en discutant à haute voix avec quelqu'un. Voilà. Donc, voilà pour quelques outils pour le témoignage. Donc, on a réfléchi quand même à cette notion de tout un parcours, de différentes étapes. Et à quel point ça fait plaisir, peut-être même sage et intelligent, d'envisager une expérience comme ça en Église, en se servant de toute la richesse et la diversité. Et là, ces deux outils, c'est particulièrement pour pouvoir annoncer clairement l'Évangile et accompagner quelqu'un dans la découverte de la parole du Seigneur jusqu'à la conversion, le baptême et au-delà. J'aimerais m'arrêter là et on aura, je pense, juste un petit moment pour un temps de questions ou d'autres remarques si vous voulez donner suite. Je sais que c'est assez simple comme présentation, mais je pense que si je vous inonde d'outils, on se perd. Donc j'ai décidé de privilégier la simplicité. Vous avez des questions, des remarques suite à cette petite présentation?
Oui.
Ah oui. Redis, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu.
Non, je vois que le deuxième symbole.
C'est une X. Ouais, en fait, c'est vrai, je viens de voir ça. Je préfère la division, j'aime bien, mais je pense aussi c'est l'idée qu'il y a un blocage. J'ai vu plusieurs versions de ça et c'est vrai que. Ouais, je n'ai pas remarqué, merci. C'est un peu la même idée, en tout cas. D'autres marques? Oui. Bonne question. Je pensais qu'on pourrait commander sur le site internet. Ouais, est-ce que vous voyez ça? Ouais, sur le site internet, on peut commander. Et à la CLC, il y en a? Ah, c'est bon à savoir. Ouais. Et Julien serait bien content de vous accueillir. Oui, Daniel.
Le premier obstacle auquel on se heurte souvent dans le témoignage, enfin quand on veut entrer dans le témoignage en France en particulier, c'est l'existence de Dieu, la question de l'existence de Dieu, de l'existence d'une dimension spirituelle au-delà de la dimension.
Tout à fait.
Et je ne sais pas si tu as des permis de dépasser cet obstacle qui est radical.
Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ce que moi, je trouve avec ceux qui m'entourent, c'est que même des personnes qui ne croient pas en Dieu acceptent de lire la Bible. C'est bizarre. D'un côté, on peut dire, bon, c'est une démarche un peu presque culturelle. Je découvre. Parfois, je dis, ben, une fois dans la vie, quand même. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu vas perdre? Si tu n'aimes pas, tu abandonnes. Je peux vous dire, et c'est sans exagérer, avec toutes les personnes à qui j'ai proposé une lecture de la Bible, et là je pars de musulmans, de personnes qui viennent de l'hindouisme, pas mal d'athées ou agnostiques en tout cas, il y a très peu qui ont refusé. Il y en a qui ont abandonné, si je dis la vérité, c'est pas tout le monde qui va jusqu'au bout, on est bien d'accord. Mais j'ai pas trouvé que c'était un obstacle pour démarrer quand même une discussion ou une découverte des Écritures. Donc je suis d'accord, c'est un obstacle énorme, mais en fait, plutôt pour moi de faire de l'apologétique, alors que ça, ce serait tout un autre enseignement, on pourrait. Il y a des arguments, il y a énormément d'outils et même de très très bons bouquins. Un exemple, c'est La raison est pour Dieu de Tim Keller, par exemple, mais il y en a tout un tas. Mais là, on a une démarche beaucoup plus apologétique qui fait quand même un argument en faveur même de l'existence de Dieu ou de la véracité de la Bible, etc. Et là, on est plutôt dans tout ce qui est les apologétiques classiques. Je suis d'accord que ça a sa place, mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à prendre. Ça demande beaucoup plus de temps pour être à l'aise avec ces arguments-là. Donc si je commence avec ces outils aujourd'hui, c'est surtout parce que je pense que n'importe qui peut commencer là. Mais je vous encourage quand même, pour ceux qui n'ont jamais fait ce travail, et je pense qu'on est tous d'accord avec ce que Daniel dit, il faut qu'on cultive nos compétences apologétiques pour qu'on soit capable à un moment donné, parce que cette question va se poser. Comment est-ce qu'on peut justifier, sur le plan philosophique, ou etc., l'existence de Dieu? Donc, moi, je n'hésiterai pas face à certaines questions à dire franchement, je ne peux pas. J'ai pas la bonne, mais je connais quelqu'un qui pourrait nous rejoindre la prochaine fois. Je vais l'inviter. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Daniel, que ça, c'est un gros travail. Est-ce qu'il y a d'autres marques? Oui.
Il y a peut-être le premier truc, c'est j'ai l'impression qu'on pense que ça n'intéresse pas les gens.
Oui.
Et nous, enfin, un micro-témoignage que j'ai envie d'entendre là-dessus, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait des groupes de découvertes avec nous, qui a 60 ans, ne croit pas en Dieu.
Ouais.
Elle le dit dans le groupe.
Amen. Oui. Mais c'est tout à fait ça. Oui. J'ai une liste de situations comme ça que je peux décrire. Je suis loin d'être seul. Hein. Je pense que parfois, honnêtement, je suis désolé de le dire comme ça, mais je pense qu'on manque juste parfois de l'audace. Oser demander. Et on imagine, comme tu suggères, Damien, que oh, non, ça ne va pas l'intéresser. Moi, j'aimerais suggérer que je pense qu'en parlant de belles œuvres, vous, vos vies, sont beaucoup plus belles que vous l'imaginez. Vous avez l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Et sans le savoir, il y a quelque chose qui rayonne. Et les gens ne le disent pas. On est en France. Pas trop caressé dans le sens du poil, on est bien d'accord. Hein. Mais quand même, on voit quelque chose. Et quand je vois quelque chose de différent, que ce soit chez une personne ou un couple ou une famille, j'aimerais savoir, mais il y a quoi? Donc, quand cette personne dit, tiens, ça t'intéresse de découvrir un petit peu, parfois on est surpris. Donc, je pense que, merci Damien, je suis entièrement d'accord avec ça. Oui, vas-y.
Une des choses que je réalise aujourd'hui aussi, c'est que je pense qu'il faut que, bien évidemment que nous, on veut que les gens connaissent Jésus-Christ.
Ouais.
Mais en fait, je pense qu'il faut qu'on soit aussi plein d'audace pour dire aux personnes qui nous entourent que sans la connaissance de la Bible, en fait, ils ne peuvent pas vraiment comprendre énormément de choses de notre histoire et de notre culture.
Il y a tout un contexte.
Et en fait, de leur dire ça avec confiance, de dire, mais en fait, tu sais, peut-être que tu ne crois pas en Dieu, peut-être que... Mais en fait, moi, ce que j'aimerais te proposer, c'est au moins que tu connaisses le livre qui est le plus vendu, qui n'est pas forcément celui qui est mis dans les premières ventes de Fnac, parce qu'en fait, il est toujours premier. Donc, en fait,
okay.
Et en plus de leur dire, mais en fait, tu sais, pour la culture et pour comprendre vraiment l'histoire, si tu ne connais pas ce livre,
ouais. Tu loues. Tout à fait, entièrement d'accord.
Les gens à leur dire, bah, en fait, toi, nous, on est là aussi pour ça.
Ouais.
Et si bien évidemment, on sait qu'on n'est pas là juste pour faire du culture.
Tout à fait.
Mais si les gens ne connaissent pas la vie,
tout à fait. Oui, excellent. C'est très bien, oui.
Dans notre contexte aussi en France laïque,
ouais.
Ça peut expliquer aussi un peu compliqué que on a du mal à parler de notre foi, notamment au milieu professionnel.
Oui.
Encore plus quand on a une position hiérarchique envers des. Parce qu'on peut éventuellement être taxé et accusé de vouloir manipuler les gens.
Tout à fait.
Comment faire pour un peu dépasser ce...
Je pense que c'est une question très pertinente et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut bien choisir son contexte. Et je pense que cette dynamique presque hiérarchique... Ça pose question, en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand c'est quelqu'un qui bosse pour moi. Donc, effectivement, je pense que ça exige de nous un certain discernement. Tout à l'heure, quelqu'un a proposé que c'est dans un contexte parfois d'amitié. Je sais que nombreux sont les ingénieurs, les professeurs que je croise qui cherchent des occasions pour pouvoir rencontrer un collègue en dehors. On va aller courir ensemble, ou on va aller boire un coup ensemble, ou je t'invite à participer à une activité. Et en fait, on est en dehors du contexte du boulot. Et c'est là où parfois on peut avoir un peu plus de liberté, mais quand même, je pense que tu as raison de dire, mais vigilance, on ne veut jamais donner l'impression qu'on se sert de notre position. Et je pense que ça vaut le coup de chercher le Seigneur. Seigneur, donne-moi du discernement. J'ai envie que cette personne te connaisse. Comment est-ce que je gère? Et parfois, juste en priant régulièrement pour cette personne, le Seigneur va faire venir quelqu'un d'autre. Si jamais on est mal à l'aise avec l'idée d'y aller à cause de ce rapport hiérarchique au boulot. Mais je pense que c'est à prendre en compte, oui. Alléluia. Ouais.
Et parce que trop souvent, on pense que ceux qui ne connaissent pas Christ sont opposés. Moi, je n'étais pas opposée. J'étais en recherche.
Ok.
Donc, et effectivement, j'avais besoin d'entendre ça.
Ouais.
La deuxième chose que je peux te dire, c'est que ça m'est arrivé de confronter les gens. Donc, je savais. Oui. Et là, des fois, ça peut fonctionner, ça peut suicider. Ben oui, c'est vrai.
Tout à fait. Oui.
Je
suis ouais.
faisant quelque chose que je ne connais pas.
Ouais.
Et souvent, je leur dis, mais tu sais ce qui est tombé parce qu'il y a besoin.
Merci, merci beaucoup. Je suis conscient du temps. Peut-être juste, ouais, est-ce que, oui, Sylvain, dis-moi, ouais, je te... Une ou deux remarques et puis on... Ouais. Parce que si je peux profiter de ce petit moment différemment, est-ce qu'on peut juste terminer avec, si quelques personnes se sentiraient à l'aise pour prier ou de voix, est-ce que ça va? Juste pour remettre entre le Seigneur ce qu'on vient d'entendre, de partager, prier les uns pour les autres, sentez-vous libre. On peut juste, peut-être la personne qui prie, si vous êtes à l'aise, soit pour prier fort ou vous mettre debout, et je vais m'arrêter là. Merci.